Chapitre 36. Dans le comté de Lincoln. Le silence règne partout à Chesney Wold et couvre de son voile les derniers événements qui se passèrent dans la famille. On dit que Sir Leicester a acheté la discrétion de plusieurs personnes qui, sans cela, auraient parlé. Mais c'est un non-dit boiteux qui se traîne en chuchotant et qui meurt au moindre signe de vie qu'il essaye de donner. On sait, à n'en pouvoir douter, que la belle Lady Dedlock repose dans un mausolée situé au fond du parc, sous la voûte épaisse des vieux chênes, où le hibou fait retentir chaque nuit ses cris lugubres. Mais de quel endroit on l'apporta aux échos de ce lieu isolé, et comment elle mourut, c'est toujours un mystère. Il y a bien parmi ses anciennes amies, ses beautés décharnées aux joues de pêche, au cou maigre, quelques-unes de ses anciennes enchanteresses qui, en jouant avec leur éventail comme de pauvres fantômes, réduits à coqueter avec la mort, après avoir perdu leur dernier adorateur, s'en vont répétant tout bas dans le monde que les cendres des Dedlock renfermées dans le mausolée du parc doivent se soulever contre cette profanation. Mais les ombres des anciens Dedlock le prennent fort tranquillement et n'ont pas, que l'on sache, fait à cet égard la moindre observation. Du creux de la ravine, couverte de fougères, monte parfois jusqu'à ce lieu isolé un bruit de pas qui suivent l'allée tournante cachée parmi les arbres. On voit alors Sir Leicester, courbé, impotent, presque aveugle, mais noble encore, monté sur un vieux cheval dont un homme robuste, qui chevauche à côté de lui, surveille attentivement la bride. Quand ils arrivent devant la porte du mausolée, le cheval de Sir Leicester s'arrête de lui-même, et le baronnet, découvrant ses cheveux blancs, reste immobile pendant quelques minutes avant de songer à s'éloigner. La guerre existe toujours entre Sir Leicester Dedlock et l'audacieux Boythorn, mais seulement par intervalles, tantôt faisant rage et tantôt s'éteignant comme la flamme inconstante d'un feu mal entretenu. On dit qu'à l'époque où Sir Leicester vint habiter Chesney Wold pour ne plus en sortir, M. Boythorn manifesta l'intention d'abandonner ses droits et d'accepter l'ultimatum du baronnet. Mais que Sir Leicester, comprenant que c'était une concession à ses malheurs et à son état maladif, en avait été si profondément blessé que M. Boythorn s'était trouvé dans la nécessité de commettre un flagrant délit pour rendre le calme à l'esprit de son voisin. Il continue donc ses effroyables menaces qu'il placarde lui-même, toujours avec son oiseau sur la tête, jurant d'aller assaillir le baronnet jusque dans le sanctuaire du foyer domestique, plutôt que de renoncer au droit de passage qu'il revendiquera jusqu'à la mort. Mais on dit tout bas que plus il se montre féroce envers son vieil ennemi, plus il a pour lui de considération et de respect, et que Sir Leicester, dans sa dignité d'homme implacable, ne se doute pas de quels égards on entoure sa faiblesse. Il ne sait pas davantage que le sort des deux sœurs crée entre lui et son antagoniste un lien sympathique de commune souffrance. M. Boythorn le sait bien, lui, mais il n'est pas homme à le lui dire. Et la querelle continue à la satisfaction des deux parties. La loge que l'on aperçoit du château, celle que regardait Milady un jour où le comté de Lincoln se trouvait submergé, et d'où elle voyait sortir l'enfant du garde, est maintenant occupée par George Rouncewell. Quelques armes, qui faisaient jadis partie du matériel de la galerie, sont appendues aux murailles, et leur entretien constitue le plus grand plaisir d'un petit homme boiteux qu'on voit sans cesse à la porte de la sellerie, toujours occupé, toujours polissant un étrier, un mort, une gourmette, une bossette de harnais, tout ce qu'enfin on peut fourbir et nettoyer, car il ne vit que pour le polissage. Un petit homme ébouriffé, avarié, ressemblant quelque peu à un vieux chien matiné que toute sa vie on a repoussé à coups de pied et qui répond au nom de Phil. C'est un spectacle touchant que de voir la vieille femme de charge, à présent tout à fait sourde, aller à l'église appuyée sur le bras de son fils, et d'observer les relations qui existent entre eux et le baronnet. Au reste, il y a peu de monde aujourd'hui pour en faire la remarque, car il ne vient presque personne maintenant à Chesney Wold. Cependant, à l'époque des grandes chaleurs, on entrevoit parmi les feuilles un manteau gris et un parapluie jadis inconnus dans ces lieux. Deux petites filles folichonnent alors dans la fosse des scieurs de long et dans les coins les plus retirés du parc, tandis qu'à la porte du sergent, la fumée de deux pipes déploie ses spirales dans l'air embaumé du soir, pendant qu'au fond de la loge, un fifre fait entendre l'air inspirateur de Grenadiers anglais, et que vers la fin de la soirée, une voix sèche dit ces mots d'un ton inflexible, « Mais je ne l'avoue pas devant la vieille, faut maintenir la discipline. » Le château est presque entièrement fermé, et désormais on ne le montre plus à personne. Néanmoins, Sir Leicester se tient toujours dans le grand salon, où il occupe sa place accoutumée, en face du portrait de Milady. Quand vient le soir, on éclaire entre les paravents où il se trouve que la partie qu'il occupe, et la lumière diminue graduellement jusqu'à l'heure où elle n'existera plus. Quelque temps encore, et toute clarté s'éteindra pour Sir Leicester. Quelque temps encore, et la porte humide du mausolée, qui ferme si bien, s'ouvrira pour le recevoir. Volamnia, dont le rouge devient plus foncé et le teint plus jaune à mesure que s'enfuient les années, fait la lecture au baronnet pendant les longues soirées d'hiver. Et de tous les artifices dont elle use pour dissimuler ses bâillements, l'introduction du collier de perles entre ses lèvres roses est le plus efficace et le plus fréquemment employé. Le fond de ses lectures se compose de longues tartines sur la question de Boodle et Baffet, où il est démontré que Baffet est immaculé et Boodle un scélérat, que le pays court à sa ruine en se déclarant pour Boodle et non pas pour Baffet, ou que l'État serait sauvé si le gouvernement donnait la préférence à Baffet et non à Boodle. Il faut absolument que ce soit l'un des deux, car nul autre ne peut rien pour le pays. Sir Leicester s'inquiète peu du sujet et ne paraît pas suivre les débats avec beaucoup d'attention. Toutefois, il s'éveille dès que Volamnia se hasarde à suspendre sa lecture, et répétant le dernier mot d'une voix sonore, il lui demande avec un certain déplaisir si c'est qu'elle est fatiguée. Mais Volamnia, qui, tout en sautillant, furait au milieu des papiers de son cousin, a découvert un certain mémorandum qui la concerne, et qui lui assure, au cas où il arriverait quelque chose à son illustre parent, une compensation suffisante aux lectures les plus longues et les plus fastidieuses. Compensation qui va même jusqu'à tenir en respect le dragon dévorant de l'ennui qui l'assiège. Les cousins s'abstiennent pour la plupart de se montrer à Chesney Wold, dont la tristesse les effarouche. Ceux qui viennent encore n'apparaissent plus que dans la saison des chasses. À cette époque, les plantations retentissent de coups de fusil, et les gardes, avec quelques rabatteurs, vont attendre au rendez-vous habituel deux ou trois parents ennuyés. Le cousin débilité, que l'aspect lugubre de ces lieux débilite plus encore, tombe dans un affreux accablement dès qu'il rentre au château, et gémit sous les oreillers des sofas couverts de housses, en assurant que cette vieille geôle infernale n'est bonne qu'à enterrer les gens. L'unique solennité que Chesney Wold procure maintenant à Volamnia ne se présente plus que de loin en loin, à l'époque où il s'agit de faire quelque chose pour le pays, en daignant embellir un bal public de sa présence. Dans ses grands jours, la sylphide, revêtue d'une toilette juvénile, franchit avec joie, escortée de ses cousins, les 14 000 qui la séparent de la salle des élections, transformée en salle de danse après avoir été, pendant les 365 jours des années ordinaires, une sorte de garde-meuble remplie de tables et de chaises à l'envers, la tête en bas, les pieds en l'air. Et vraiment, cette chère Volamnia captive tous les cœurs par sa condescendance, sa vivacité naïve et ses grâces toujours aussi légères qu'à l'époque où le hideux général, dont la vieille mâchoire est aujourd'hui rajeunie par un râtelier complet, n'avait pas encore acheté ses dents au prix de 2 guinées la pièce. Nymphe de bonne maison, elle chasse et déchasse, balance et tourbillonne à travers les quadrilles avec autant de plaisir que de succès, se montrant tour à tour bienveillante et cruelle pour les bergers de l'endroit qui viennent lui offrir du thé, des sandwichs et de la limonade, accompagnés de leurs hommages respectueux. Il existe une singulière ressemblance entre sa beauté surannée et les lustres de cristal dont la pièce est décorée. Vieux ornements qui, avec leurs maigres tiges, leurs petites pendeloques devenues rares, leurs bobèches dégarnies, leurs rameaux dépouillés de virole et de godet, surtout avec leurs faibles rayons de lumière vacillante et prismatique, ressemblent à autant de Volamnia. mais à part ces festivals exceptionnels, le Lincolnshire n'offre à la cousine du baronnet qu'un vaste manoir antique et solitaire, au milieu de grands arbres qui soupirent, se tordent les bras, courbent la tête, et dans cette attitude désolée, jettent leurs larmes sur les vitraux assombris. Un pompeux labyrinthe, dont les propriétaires véritables sont maintenant une famille d'échos retentissants, que le moindre son fait sortir de leur sépulcre, un dédale de corridors et d'escaliers où personne ne passe, un désert où le peigne d'écailles, qui par hasard tombe le soir sur le parquet, fait courir le bruit de sa chute à travers tout l'édifice et le renvoie jusqu'au faîte, un lieu maudit où l'on a peur de rôder seul, où la cendre qui glisse du foyer arrache un cri de terreur à la nouvelle servante, qui, de frayeur en frayeur, tombe dans le marasme, donne congé et s'en va. Tel est maintenant Chesney Wold, presque entièrement abandonné au vide et aux ténèbres, presque aussi triste quand le soleil d'été brille que lorsque les nuages couvrent le ciel d'hiver. Plus de drapeaux flottant pendant le jour, plus de rangées de fenêtres lumineuses étincelant dans la nuit. Plus de familles, plus de visiteurs pour animer ces chambres glacées. Plus de mouvement, plus de vie nulle part. La grandeur hautaine et l'orgueil même n'y frappent plus les yeux de l'étranger. Ils se sont retirés de l'antique domaine des Dedlock pour céder la place à un morne repos. Chapitre 37. Fin de la narration d'Esther. Il y a maintenant plus de 7 années que je suis la maîtresse de Bleak House. J'aurai bientôt fini les quelques lignes que j'ai encore à écrire, et alors il ne me restera plus qu'à me séparer de l'ami inconnu pour qui j'ai pris la plume. Mais je lui conserverai un affectueux souvenir, et j'espère que de son côté il ne m'oubliera pas. Ils placèrent ma chère fille dans mes bras, et je passai de longues semaines sans la quitter une minute. Le petit enfant qu'elle attendait vint au monde avant que l'herbe fût poussée sur la tombe de son père. C'était un garçon, et mon tuteur, mon mari et moi, nous lui donnâmes le nom de Richard. Le secours efficace sur lequel ma pauvre amie comptait lui arrivait enfin. Mais la sagesse éternelle avait disposé les choses autrement qu'elle ne l'avait rêvé. C'était pour consoler la veuve, et non pas pour faire le bonheur de son père, qu'il était envoyé. Et quand je vis la puissance de cette petite main si faible, dont l'attouchement guérissait le cœur de sa mère et ranimait l'espoir éteint dans son cœur, j'en conçus un sentiment plus profond de la bonté du Créateur. L'enfant prit de la force, la mère se rétablit. Peu à peu, je vis ma pauvre amie rester plus longtemps dans mon jardin et s'y promener avec son fils dans les bras. J'étais mariée alors et la plus heureuse des femmes. Lorsqu'elle fut tout à fait remise, mon tuteur vint nous rejoindre et lui demanda à quelle époque elle reviendrait à la maison. « Vous êtes chez vous dans les 2 Bleak House, » lui dit-il. « Mais l'ancienne a le droit de priorité et le réclame. Dès que vous serez assez bien pour voyager, ainsi que mon petit Richard, venez donc, cher enfant, prendre possession de votre demeure. »« Cousin John, » lui dit Ada. « Non, » répondit-il, « c'est tuteur qu'il faut dire à présent. » Il était celui de bébé et voulait rester celui de la mère. Ce titre d'ailleurs se rattachait à un ancien souvenir. Depuis lors, elle l'appela donc tuteur, et les enfants ne lui connaissaient pas d'autre nom. Je dis les enfants parce que j'ai 2 petites filles. On croira difficilement que Charlie, dont les yeux sont toujours ronds et l'orthographe vicieuse, est marié au meunier du village. Pourtant, rien n'est plus vrai, et en ce moment même, de la table où j'écris, près de ma fenêtre, je vois tourner son moulin. J'espère que son mari ne la gâtera pas, quoi qu'il en soit très épris, et que Charlie se montre un peu vaine d'avoir fait un si beau mariage. Il est vrai que le meunier est bien dans ses affaires. Aussi se voyait-il très recherché des mamans qui avaient des filles à marier. Pour en revenir à ma petite femme de chambre, je pourrais croire que le temps s'est arrêté depuis 6 années, comme son moulin vient de le faire depuis un moment, car Emma, la sœur de Charlie, est exactement maintenant ce qu'était Charlie avant elle. Quant à ce pauvre Tom, je n'oserais pas parler des bévues qu'il fit un jour à l'école dans son calcul. Il faut dire qu'il s'agissait de fractions décimales. Quoi qu'il en soit, il est apprenti meunier chez son beau-frère. C'est un excellent garçon, fort timide, toujours amoureux de quelques jeunes filles, n'osant jamais le dire et ne sachant pas plus le cacher. Caddy Jellyby a passé les dernières vacances avec nous, meilleure et plus charmante que jamais, dansant perpétuellement avec les enfants, comme si la danse n'était pas son métier. Elle a maintenant une voiture et demeure plus à l'ouest, à 2 miles de Newman Street. Elle est obligée de travailler dur, son mari, devenu boiteux, n'étant plus capable de grand-chose. Mais elle est toujours contente de son sort et fait sa besogne de tout son cœur. Monsieur Jellyby va passer toutes ses soirées chez elle et appuie sa tête contre le mur de la nouvelle maison comme il faisait dans l'ancienne. J'ai entendu dire que Mrs. Jellyby avait gémi profondément de l'ignoble mariage de sa fille et de son indigne profession. Mais j'espère qu'elle a fini par oublier cette pensée mortifiante. Elle a eu des désappointements cruels dans la question africaine. Le roi de Borioboulaga, ayant éprouvé le besoin de vendre pour un peu de rhum tous les colons qui avaient résisté au climat, la colonie est à volo. Mais Mme Jellyby s'est rattachée à la question des droits politiques de la femme, et Caddy m'a dit que cette mission donnait lieu à une correspondance encore plus volumineuse que celle de Borioboulaga. J'allais oublier la pauvre petite fille de Caddy. Elle a grandi et pris de la force, mais elle est sourde et muette. Je ne crois pas qu'il ait jamais existé de meilleure mère. Et dans ses rares instants de loisir, Caddy apprend une foule de notions à l'usage des sourds-muets afin d'adoucir le malheur de son enfant. Pipé est employé à la douane et se conduit à merveille. Le vieux M. Turveydrop, chez qui l'apoplexie est de plus en plus imminente, exhibe toujours les grâces de sa tournure dans les endroits les mieux fréquentés. Il continue à jouir de lui-même. Il inspire toujours une foi profonde à son fils et à sa belle-fille. Et conservant son patronage distingué à Pipé, il fait entendre qu'il lui lèguera une pendule française d'un goût élégant qui est dans son cabinet de toilette, et qui ne lui appartient pas. Nos premières économies furent employées à la construction d'un petit grognoir exclusivement réservé à mon tuteur, et que nous inaugurâmes avec toute la pompe imaginable. Je m'efforce d'écrire tout cela gaiement, mais en dépit de moi-même, j'ai le cœur gros de voir que je touche à la fin de mon récit. Et quand je parle de M. Jarndyce, il faut absolument que je laisse couler mes larmes. Je ne le regarde jamais sans entendre encore notre pauvre Richard s'extasier trop tard sur sa bonté. Il est pour Ada et pour son fils le plus tendre des pères, et pour moi ce qu'il a toujours été. Quel nom donner à cela? Il est à la fois le meilleur ami de mon mari, le favori des enfants, l'objet de notre amour et de notre vénération la plus profonde. Et cependant, tout en le considérant comme un être supérieur, je suis tellement familière, tellement à l'aise avec lui, que j'en suis presque surprise. Je n'ai perdu aucun de mes anciens noms, Dame Durden, petite mère, petite femme, et je réponds « Oui, tuteur, absolument comme autrefois ». Je n'ai plus entendu parler du vent d'Est, depuis le moment où il m'amena devant la façade de notre maison pour me faire lire le nom qui s'y trouvait gravé. Je lui en ai fait la remarque, et il m'a répondu qu'en effet, le vent d'Est avait depuis lors complètement disparu. Ada est plus belle que jamais. La douleur que son visage exprima pendant longtemps, mais qui aujourd'hui est effacée, a donné à sa physionomie, déjà si pure, un caractère plus élevé, plus divin pour ainsi dire. Quand mon regard la rencontre et que je la vois si belle dans ses habits de deuil, qu'elle conserve toujours, et donnant une leçon à mon petit Richard, j'éprouve un plaisir indéfinissable à penser que peut-être elle n'oublie pas sa chère Esther dans ses prières. Si j'appelle son enfant mon petit Richard, c'est qu'il dit qu'il a deux mamans, et j'en suis une. Nous ne touchons pas de gros intérêts à la banque, mais nous vivons à notre aise, et nous n'en demandons pas davantage. Je ne sors pas avec mon mari sans l'entendre bénir. Je ne vais pas dans une maison, riche ou pauvre, sans qu'on me fasse son éloge, ou qu'on le regarde avec des yeux reconnaissants. Je ne me couche pas un seul jour sans savoir qu'il a soulagé quelques douleurs et secouru des malheureux. Je sais qu'à leur dernier moment, ceux qu'il n'a pu guérir l'ont souvent remercié de sa bonté patiente et de ses soins généreux. N'est-ce pas là être riche? Ils vont même jusqu'à m'estimer infiniment en ma qualité de femme du docteur. Ils me témoignent tant d'affection et me place si haut dans leur considération que j'en suis toute confuse. C'est à lui, mon orgueil et mon bonheur, à lui que je dois tout cela. Il m'aime à cause de lui, comme de mon côté je fais tout pour l'amour de lui. Il y a 2 ou 3 jours, après avoir fait mes petits préparatifs pour recevoir mon tuteur, Ada et son enfant, qui nous arrive demain, j'étais assise devant le portail, ce cher portail jamais mémorable, quand Alan revint à la maison. « À quoi pensiez-vous, chère petite ?» me dit-il. « Curieux que vous êtes, lui répondis-je. J'ai presque honte de vous le dire, mais c'est égal, eh bien, je pensais à ma figure d'autrefois. « Et qu'est-ce que vous en pensiez, ma diligente abeille ?»« Je pensais, lui dis-je, qu'il aurait été impossible que vous m'eussiez aimé davantage, même si je l'avais conservée. »« Telle qu'elle était jadis ?» demanda-t-il en riant. « Justement, répliquai-je. « Dame Durden, me dit Alan en m'offrant son bras. « Vous regardez-vous quelquefois dans la glace ?»« Vous le savez bien, car vous m'y prenez quelquefois. » « Ne voyez-vous pas alors que vous êtes plus jolie que vous n'avez jamais été ?»« Je ne le savais pas, et je ne suis pas sûr que ce soit vrai. »« Mais je sais que mes petites filles sont charmantes, que mon Ada est très belle, que mon mari est d'une beauté pleine d'élégance et de distinction, que mon tuteur a la figure la plus radieuse et la plus bienveillante qu'on puisse voir, et qu'il leur est inutile que je sois jolie, même en supposant que... » Fin du roman.